Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1986, durant les semaines qui précédaient l'inauguration du musée d'Orsay, Pierre Descargues consacrait une série de 4 émissions à ce nouveau musée. C'était la veille de son ouverture au public qu'en était diffusé le dernier volet. Une émission dans laquelle était interrogée l'historienne Madeleine Reberioux, alors vice-présidente de l'établissement public en vue de la création du musée d'Orsay, l'historien de l'art et conservateur Michel Laclotte, qui dirigea l'équipe de préfiguration du musée d'Orsay jusqu'à son ouverture, et l'architecte italienne Gae Aulenti, chargée de l'intégralité de son aménagement intérieur. Rappelant qu'Orsay ne présentait pas un pan de l'histoire de l'art, mais d'une histoire des arts, dans laquelle les beaux-arts occupaient une place importante, mais pas toute la place, cette émission répondait à ceux qui critiquaient la période couverte par Orsay, approximativement 1848-1914. Un dernier volet qui permettait aussi de mieux comprendre comment se situait Orsay, entre le Louvre et le musée d'art moderne, dans la présentation des collections nationales et de mesurer les difficultés que l'on devait surmonter pour transformer l'intérieur d'une gare en musée. Les arts et les gens, Orsay ou comment la gare est devenue musée, quatrième et dernier volet, diffusé le 8 décembre 1986 sur France Culture.
Une série de 4 émissions où nous suivons les différentes étapes de la métamorphose avec Jacques Rigaud, président de l'établissement public, Jean Gingère, maître d'ouvrage, Marie-Laure Cronier-Lecomte, documentaliste, les architectes Bardon et Philippon, et pour cette quatrième et dernière émission, à nouveau les 2 têtes chercheuses de l'entreprise, Michel Laclotte et Madeleine Reberioux, et l'architecte des salles du musée, Gae Aulenti. On retrouve pour commencer l'historienne de l'affaire, Madeleine Reberioux. Il faut vous expliquer sur un point les dates qui ont été choisies, dates dans le temps pour le musée, c'est-à-dire oui. Grosso modo 1848-1914. Alors, avec Michel Laclotte, on s'est bien aperçu que c'était pas des dates qui convenaient bien pour raconter l'histoire de l'art et que c'était un phénomène assez flou. Mais après tout, l'histoire de l'art a des contours flous. C'est peut-être aussi une qualité que les mathématiciens modernes reconnaissent. Pour les historiens, par contre, vous, vos contours, ils sont très nets.
Mais si vous permettez, il y a 2 choses là-dedans. Premièrement, ce n'est pas l'histoire de l'art qui est présentée au musée d'Orsay, c'est l'histoire des arts. Et alors, la difficulté de faire coïncider une date qui convainc à la peinture d'avant-garde, au maintien de la tradition, de la grande tradition de la peinture académique, au début de la photographie, aux mutations qui caractérisent les arts décoratifs ou les arts industriels, comme on dit à l'époque. Personne ne dit arts décoratifs, grand Dieu. Les arts industriels, comme on dit à l'époque. Dans le musée, elle était totale. Alors, il n'y avait évidemment aucune raison majeure pour partir de 1863, parce que Manet montre l'Olympia en 63. Ce n'est pas une date pour la photo, ce n'est pas une date pour les objets décoratifs, ce n'est pas une date pour la sculpture. Il se trouve que c'est une date pour la peinture d'avant-garde. Donc, il était normal que l'on, et même nécessaire, que l'on choisisse des dates qui interpellent tout le monde, qui interpellent un plus large public, et qui aient un sens historique. Alors, et précisément, il se trouve que l'essentiel de ce qui est présenté dans le musée couvre les années qui vont très en gros de la fin des années 1840, bon, jusqu'à la deuxième décennie du XXe siècle, et que, par conséquent, ces collections s'inscrivent sans difficulté entre 2 dates qui ont l'une et l'autre un rayonnement non seulement français, mais européen pour la première et international pour la deuxième, puisque 1848, ce n'est pas seulement la Deuxième République en France, mais c'est le printemps des peuples à travers l'Europe entière, et que 1914, c'est le début du grand massacre, enfin, c'est la Première Guerre mondiale cette fois, même si elle commence en Europe. Donc, en retenant des dates qui ont un sens, qui font tilt, je dirais, hein, pour ceux qui ont, je ne dis pas un minimum de connaissances scolaires, hein, qui ont passé par le lycée, disons. Bon. Le collège, même, j'espère, mais en tous les cas, le lycée. En retenant ces dates-là, on affirmait d'avance que le musée était dédié à un autre public, que le public des seuls amateurs d'art et qu'il s'ouvrait sur d'autres problèmes. C'est pourquoi le choix de ces dates est très important. 1914, ce n'était pas non plus facile en matière d'histoire de la peinture, puisqu'il est vrai que la peinture abstraite, et avant elle, enfin, la grande peinture cubiste, démarre dans les années 1907, enfin entre 1907 et 1912.
Bon. Or, elle ne sera pas au musée.
Or, elle ne sera pas ici. Bon. Mais précisément, en acceptant que les dates du musée, ça soit 1848-1914, la conservation a admis qu'on ne pouvait pas définir la chronologie du musée d'Orsay uniquement à partir de la peinture, et que certes on verra très peu de tableaux postérieurs à 1905-1906, mais en revanche on verra des photos qui iront jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, on verra des objets d'art qui iront jusqu'en 1914, on verra le cinéma, bon, et que tout le service, tout ce qui sera produit culturellement à partir du musée, dans le musée, pour le musée, avec le musée, qui sera, je l'espère, ouvert très au-delà de l'histoire de l'art, enfin, qui sera vraiment largement ouvert aux recherches d'histoire culturelle sur la deuxième moitié du XIXe siècle et le début du XXe. Bien. Tout cela parlera en direction de l'extérieur autant, en somme, que les œuvres sublimes rassemblées ici.
À vous entendre, ce musée va nous donner des moyens d'investigation sur cette époque.
Je l'espère.
Beaucoup plus grands que ceux auxquels on est habitué.
Oui.
Hein, c'est quand même ça.
Eh bien, je l'espère, oui. Je crois qu'il en fournira plus. Oui. Je crois qu'il aidera vraiment les gens à se poser des questions, à s'interroger, et que l'existence d'un auditorium, la tenue de rencontres, de débats tous les samedis matin, les colloques qui, j'espère, seront nombreux à pouvoir et ouverts, variés, à pouvoir se tenir dans le musée, ça c'est pas évident, mais enfin, il y a lieu de l'espérer tout de même, tout cela contribuera à nous aider à comprendre le XIXe siècle.
Entre deux musées, le Louvre et le Musée national d'art moderne, qui sont des musées, je dirais, évolutifs. Car jusqu'à présent, le propre du Louvre était de recevoir les artistes au moment de leur 100e anniversaire. Et les choses se sont à peu près faites. Ça n'a pas été si commode que ça, puisque la place était mesurée. Et puis, le Musée d'art moderne, le Musée national d'art moderne, avait pour vocation d'informer de plus en plus près de l'actualité. Alors, entre ces deux organismes qui sont mobiles, qui sont en évolution constante, vous, est-ce que vous avez un domaine qui est figé, ou bien est-ce qu'à l'avenir, vous allez faire comme eux, c'est-à-dire passer votre temps à vous élargir?
Moi, je ne crois pas. Je crois que le musée d'Orsay, il évoluera à l'intérieur de lui-même. Certainement, il y aura peut-être des retouches en amont ou en aval. Mais je ne pense pas, il n'y a pas la place, tout simplement, pour avaler le XXe siècle. C'est pas le moment venu, lorsque Matisse et Picasso, par exemple, pour prendre les deux phares, ou Bonnard, et c'est autre chose, Bonnard, enfin, Matisse et Picasso, disons, et Braque, devraient entrer au Louvre. À mon avis, il faudra un quatrième musée. Il faudra un musée du XXe siècle. Nous nous sommes posé la question, n'est-ce pas ? Nous avons travaillé avec Dominique Bouzeau en réfléchissant. Il est évident que tel qu'il est et tel que le verra le public, c'est un musée qui, à mon avis, ne peut pas évoluer à moins d'un changement radical, n'est-ce pas ? Mais il ne suffira pas de rajouter quelques salles pour le XXe siècle. Non, il faudra un quatrième musée pour ce qui se passe après 1906 dans l'art occidental. Et l'évolution du musée d'Orsay, ce sera à l'intérieur de lui-même. On nous a souvent demandé, et la question d'ailleurs aurait pu se poser, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez eu la certitude d'avoir le ministère des Finances, disons, il y a 10 ans, n'est-ce pas ? Il est vraisemblable qu'à ce moment-là, on n'aurait pas fait Orsay. Du moins, on n'aurait pas mis à Orsay le contenu du jeu de paume et tout ce qui va venir à Orsay. Mais je crois, alors là, sincèrement, que ça aurait été dommage. Parce que ce qu'on fait à Orsay, pour une période de, disons, 3 générations, spécialement riche, il faut dire, n'est-ce pas ? Vraiment, c'est une des grandes, il faut dire ce qui est. C'est quand même une des périodes de l'humanité, peut-être comparable à la Renaissance italienne, d'invention, de création et de changement de vision artistique dont il y a peu d'exemples, je crois. Enfin, moi, c'est un exemple le plus riche, n'est-ce pas ? Il ne faut pas croire que l'histoire de l'art, c'est continuellement une création, une invention. Il y a des périodes plus ou moins denses, plus ou moins riches, plus ou moins fécondes, et celle-là en est une. Bon, donc je pense que le fait de pouvoir juxtaposer, comme nous l'avons fait, la peinture, la sculpture, l'architecture et l'urbanisme, les arts décoratifs, tous les arts graphiques, tout ça dans un contexte plus général, n'est-ce pas, évoquant les rapports avec la musique, etc., la littérature. Ça, c'est une chose qu'on peut faire sur ces trois générations exposées à Orsay bien. Au Louvre, on ne l'aurait certainement pas fait, parce que pourquoi le faire pour cette période-là et pas pour une autre, n'est-ce pas ?
Je voudrais vous questionner sur quelques petits points qui me paraissent étranges. Par exemple, je crois comprendre que Courbet sera à la fois au Louvre et à Orsay.
Donc, ah non, pas du tout. Donc Courbet, non, si vous voulez, là, c'est en effet un point important. Voilà. Il ne faut pas que les artistes soient coupés en deux.
Et ça, c'est le cas pour Corot, je crois.
Alors ça, c'est... Oui, alors je m'expliquerai dessus.
Justement,
nous avons pris, d'autant plus que, comme j'ai la double casquette, puisque je m'occupe également des peintures du Louvre, donc je peux répondre des deux côtés. Premier point, d'abord, il y a une collection nationale, c'est-à-dire que les tableaux sont inscrits sur le même inventaire. C'est pas Corot, Courbet, Ingres, Poussin, c'est le même inventaire. Donc c'est la collection, c'est le patrimoine des Français. Il faut que chacun des artistes en cause soit pris en compte par un musée et pas par deux. Autrement dit, prenons un exemple précis, Corot est pris en charge intégralement par le musée du Louvre et reste pris en charge par le musée du Louvre. Pris en charge, ça veut dire présenter tous les problèmes concernant les acquisitions, tous les problèmes concernant également le patrimoine, c'est-à-dire les sorties en douane, par exemple, pour prendre un exemple précis, les expositions, la documentation, sont pris en charge par le Louvre. Et il y a quelques tableaux de Corot qui sont déposés par le Louvre au musée d'Orsay comme exemple de la fin de la vie de Corot, qui a vécu très tard, après les années 70, et qui a été fécond jusqu'à la fin de sa vie, et très original à la fin de sa vie avec ses figures, notamment, après 70. Et quelques tableaux donc, de cette période-là sont présentés à Orsay, mais ça n'est pas, nous ne présentons pas à Orsay les derniers tableaux de Corot, qui restent également au Louvre. Ça, c'est très clair.
Donc, c'est le cas pour Delacroix aussi, je crois.
C'est le cas pour Delacroix, c'est le cas pour Ingres. N'est-ce pas ? Par exemple, prenons un exemple. Le bain turc d'Ingres, il est au Louvre. C'est le dernier tableau d'Ingres, et on suivra l'œuvre d'Ingres au Louvre de ses débuts, la baigneuse, les premières baigneuses, jusqu'au bain turc. Et viendront à Orsay deux ou trois tableaux qu'on a pu extraire des collections du Louvre sans que ce soit gênant, pour marquer qu'après de 50 à 60, il a été un grand artiste reconnu comme tel par ses contemporains et influent sur des élèves. Si vous voulez, ce que nous voulons éviter, c'est ce qui s'est produit pendant quelques années après la guerre pour des artistes de la génération de Signac ou des peintres de l'école de Pont-Aven, qui étaient ni au Jeu de Paume, ni au Musée d'Art Moderne, qui étaient donc à cheval entre les deux, et dont aucun musée ne se sentait responsable de l'œuvre, si bien que à ce moment-là, on n'a rien acheté, on n'a rien recherché, et tout est parti à l'étranger.
Michel Laclotte, à l'autre bout de votre musée, si j'ose dire, à l'autre charnière, il y a des cas qui sont des cas limites aussi. Par exemple, je crois que vous allez exposer Doña Rousseau, et Matisse. Alors, Doña Rousseau, comme on n'a jamais su où le mettre, ça me paraît assez normal qu'il trouve une place quelque part, encore qu'il était bien avec Picasso et ses amis cubistes, mais Matisse.
Oui, mais Doña Rousseau, la guerre, par exemple, c'est un tableau des années 90, c'est pas donc bien avant Picasso. Donc ça, je crois que Doña Rousseau, ça va, c'est un indépendant de toute façon, à cheval sur beaucoup de choses. Matisse, alors là, c'est un homme du musée d'art moderne, mais il sera représenté par un tableau, et d'ailleurs, il y aura à peu près l'équivalent pour Braque, pour Derain, pour Vlaminck, pour Derain, etc., pour rappeler que ces peintres-là, dans les années 4, 5, 6, étaient encore nourris, si vous voulez, par le post-impressionnisme. C'est des gens qui avaient été très frappés par Gauguin, par Cézanne surtout, et dans le cas de Matisse, par Signac. Et nous aurons de lui le dernier tableau qu'il ait peint en ripipoint, si je puis dire, qu'il a fait à côté de Signac à Saint-Tropez, qui est Lux, calme et volupté, qui est comme un adieu, en quelque sorte, juste avant le grand saut vers le fauvisme, un adieu de Matisse à ce qui a été la technique du post-impressionnisme. Donc là, je crois que le joint est juste.
Alors historiquement, est-ce que vous pouvez donner une réponse semblable à propos de gens qui, en les retrouvant dans votre liste, me semblent un peu les mal-aimés du musée d'art moderne? Je parle de Derain, de Vlaminck, du trio. Est-ce que vous n'avez pas sauvé un petit côté peinture française, là?
Oui, ça c'est vraiment le travail du musée d'art moderne de présenter des artistes, effectivement, comme Derain, comme Marquet. Bon, Utrio, c'est quand même une génération après, mais enfin, Derain et Marquet, effectivement, appartiennent au XXe siècle. Ils sont présentés par un tableau fauve chez nous, mais leur place est au musée d'art moderne.
Bien, cela dit, le fauvisme sera comme un lieu d'étude, un lieu où on pourra l'étudier, au musée d'art moderne?
Absolument, non, au musée d'art moderne, et nous avons juste, à la fin, dans la dernière salle, une espèce d'allusion, en quelque sorte, au fauvisme, et c'est juste une allusion.
Alors, Michel Laclotte, faut maintenant essayer de voir la philosophie de tout ça, parce que vous avez montré les conditions, l'évolution du projet, plus grand, plus court, bon, on voit à peu près comment vous avez fonctionné, mais en lisant c'est simplement cette liste qui a été communiquée à la presse, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre, il y a des tas de choses auxquelles je n'avais pas pensé, et je pense que vous avez, en conclusion, une espèce de regard un peu différent sur l'histoire de la peinture, de la sculpture, du pastel, de la photo, de l'architecture, qui tout d'un coup va éclater dans ce nouvel endroit d'Orsay.
Oui, d'ailleurs, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de peinture, oui. Et la philosophie d'Orsay, précisément, c'est qu'il n'y a pas que de la peinture. C'est pas, je pense que ça attire les gens, parce que les gens aiment vraiment la peinture, mais depuis le début, depuis les toutes premières esquisses du projet en 73, nous avons toujours voulu que ce soit un musée qui, précisément, montre tous les arts, côte à côte, en corrélation éventuellement les uns avec les autres, et en corrélation avec ce qui se passait ailleurs dans d'autres domaines de création. Et c'est ainsi qu'un des caractères d'Orsay, c'est de présenter de nombreuses petites expositions thématiques, éventuellement même didactiques, enfin qui n'aient pas de prétention à de grandes expositions, qui évoquent les rapports avec la musique, avec la littérature, avec la société du temps. Et ça, depuis le début, c'est dans nos idées, n'est-ce pas? Alors évidemment, ce qu'il fallait, c'est là où le programme a demandé du temps, de la réflexion, des essais, des maquettes et beaucoup de discussions même pour s'articuler, c'était comment présenter tout ça sans que ce soit une espèce d'énorme bouillon séduisant mais difficile à comprendre pour le grand public, n'est-ce pas ? Nous avons en tête par exemple les grandes expositions parfaitement réussies du Centre Pompidou, Paris-Moscou, etc., cette série-là, Paris-Berlin, qui était admirable en tant qu'exposition temporaire, juxtaposant un film audiovisuel, un tableau de Matisse, une vitrine avec des bouquins. Il est certain que ça, c'est très bien pour une exposition temporaire qui dure 3 mois. Je ne pense pas que ce soit bien pour un musée définitif. Donc, notre travail a été de découper, en quelque sorte, de segmenter la présentation de manière à ce que, dans un même lieu, on ne voit ensemble que des choses qui vont ensemble. C'est-à-dire que nous aurons réussi à ce que la vision globale que nous souhaitons, cette vision un peu générale, un peu pluridisciplinaire, multidisciplinaire sur la période, se fasse dans l'ordre, n'est-ce pas ? Et nous avons cherché de trouver un ordre. Et une des premières analyses a été de séparer les techniques, n'est-ce pas ? Nous avons pensé qu'il ne fallait pas montrer dans la même salle systématiquement peinture, sculpture, objets d'art, etc. Et ça, pas seulement pour des raisons de présentation muséographique, parce qu'on n'éclaire pas de la même façon dessin et sculpture, mais aussi pour des raisons de psychologique, de sensibilité, n'est-ce pas ? On a souvent constaté que, par exemple, dans les salles de peinture, je parle toujours des collections permanentes, lorsqu'il y a des sculptures peu nombreuses, les gens ne les voient pas. Tout simplement, ils ne les voient pas. Ils ont vu la peinture et réciproquement, dans des salles de sculpture, quand il y a des peintures au mur, les gens les oublient. Donc, il fallait trouver un dosage, si bien que nous avons donc assez fortement séparé les techniques les unes des autres. D'autre part, nous avons essayé également de séparer les mouvements les uns des autres. C'est pas un des problèmes qui s'est posé pour nous et qui est spécifique de cette période, c'est la cohabitation au même moment de tendances très contradictoires, avec des publics complètement différents, qui sont l'art d'avant-garde et les tendances officielles. Bon. Et les tendances officielles, ce n'est pas uniquement de la peinture pompier inadmissible, n'est-ce pas ? Il y a des tendances, notamment dans la peinture étrangère, qui ne relèvent pas de la recherche d'avant-garde et qui sont quand même de la peinture tout à fait estimable et pas seulement d'un point de vue sociologique. Donc il fallait essayer de distinguer ce qui était distinguable et ça a été... c'est difficile parce que la hiérarchie, elle n'est pas encore bien faite, notamment dans le domaine de la sculpture. Tout le monde connaît Corpo, Rodin, les expositions récentes, notamment l'extraordinaire exposition du Grand Palais, a montré beaucoup de choses, mais le point de vue critique, le point de vue historique se fait, c'est-à-dire qu'on arrive maintenant à connaître les artistes, à les dater, à les situer dans leur contexte. La hiérarchie critique, enfin vraiment qui détermine une hiérarchie de qualité, elle est encore un peu à faire. Et je dirais que c'est aussi vrai dans certains domaines de la peinture, n'est-ce pas ? Entre l'opprobre absolu, n'est-ce pas, des années de ma jeunesse, où l'idée de regarder un Carolus Duran ou un Jérôme n'effleurait personne, et maintenant l'admiration excessive, souvent pour tel mauvais peintre orientaliste hongrois imitant Jérôme, il y a quand même une nuance, n'est-ce pas ? Et la nuance, elle n'est pas toujours encore critiquement fiable.
Gehlen Valenti, on vous rencontre après pas mal de nuits blanches, car vous êtes en train de terminer l'architecture intérieure du musée d'Orsay. Ben, vous nous recevez quand même, vous avez un peu sommeil, mais vous avez beaucoup travaillé. Alors, en ouverture, j'aimerais que vous nous définissiez le rôle qui a été le vôtre dans cette entreprise. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Qu'est-ce que vous avez fait?
Vous savez que moi, je suis arrivé ici avec un concours. J'ai gagné un concours d'architecture intérieure et de mobilier équipement. Le commencement était très difficile, mais il y avait à faire un musée avec les œuvres d'art les plus belles du monde. Et alors, je peux dire que le sentiment plus fort, il était de résistance, proprement pour faire ce musée avec les œuvres les plus belles du monde. Pourquoi j'ai dit que c'était difficile? Parce que transformer une gare et un musée, c'est une opération quand même très aventureuse, pour des problèmes techniques, mais aussi des problèmes de transformation du lieu. Les points les plus difficiles, la grande nef dans laquelle les trains passaient longitudinalement et les visiteurs entraient transversalement, les faire devenir un musée, c'était là le point qui donnait préoccupation. Mais on a commencé un travail très analytique avec les conservateurs. On a commencé à examiner les collections, les regrouper, les donner des rythmes, et à travers ce travail analytique quotidien, on a commencé à diviser l'espace pour donner à chaque regroupement des œuvres son propre lieu. Avec ça, on a commencé naturellement aussi à regarder l'édifice de la Lou, et on l'a gagné et on l'a transformé en musée. On a découvert, alors que cette gare avait des espaces très différents, il y avait la grande nef, il y avait le pavillon amont où maintenant il y a, comme dire, un musée de l'architecture, il y avait les combles dans lesquels on a infiltré la galerie des impressionnistes, on avait des galeries qui sortaient dans l'ensemble du corps de l'hôtel, où il y avait les couloirs et les chambres à deux côtés, et on a fait devenir galerie et salle même cet endroit. On a par conséquence aussi inventé des lieux nouveaux, les deux tours qui sont au fond de la nef, qui sont comme deux grandes, immenses vitrines dans lesquelles les visiteurs entrent avec les œuvres, pour un rapport encore plus précis, direct.
On va passer tout à l'heure au mobilier. Vous nous avez dit que vous aviez gagné aussi le concours du mobilier. Mais avant d'y arriver, j'aimerais vos explications sur les problèmes qui se sont posés à vous. Parce que vous nous avez dit à l'instant que c'était les œuvres, les sculptures, les peintures qui avaient déterminé les volumes. Mais quand vous êtes devant, je sais pas, les grands panneaux de l'art pompier de la fin du 19e siècle, et puis devant les petites œuvres impressionnistes, il y a là deux esprits qui ont été en guerre. Ça a été la guerre entre ces officiels et ces marginaux. Alors, comment est-ce que vous avez traité d'un côté les officiels, de l'autre côté les révolutionnaires, si on peut dire?
Vous savez, il y a une question proprement des choix de place où se mettre avec les œuvres. Et par exemple, la galerie des impressionnistes, on l'a mis dans les combles proprement parce qu'il y avait la lumière naturelle. Alors là, on a travaillé beaucoup avec la lumière. C'est une chose très simple à dire, mais les tableaux, les œuvres d'art, il faut les voir. Alors, la lumière, c'est l'élément plus important, et la maîtrise de la lumière naturelle et de l'éclairage artificiel donne proprement l'architecture d'une galerie, d'une salle.
Et est-ce que l'éclairage est différent pour les artistes officiels? Les romans
c'est-à-dire,
de la décadence.
Oui, c'est-à-dire voilà. Que les salles où sont posées, accrochées, ce type de peinture sont très différentes parce qu'elles correspondent à la vieille salle de coupole de la gare. Et alors, avec son propre décor et son ovolus qui est au centre, anneau de cette coupole. Alors, l'éclairage s'est posé là-dedans. Il travaille, lui aussi, en façon indirecte, mais avec des procédures complètement différentes.
Ah, il faut nous parler maintenant du mobilier. Quel a été votre rôle dans le mobilier?
C'est-à-dire, on a dessiné tout. c'est-à-dire on a dessiné de l'architecture jusqu'à les dernières lampes, fauteuils, vitrines, mais en façon très intégrée à l'architecture.
Orsay, c'est jusqu'à présent votre plus grande aventure?
Oui,
ou pas?
Oui.
Oui, oui.
C'est la plus grande aventure.
Quatrième et dernière émission où l'on a raconté la façon dont une gare est devenue un musée aujourd'hui avec Michel Laclotte, Madeleine Réberiou et Gaë Aulenti.
C'était le quatrième et dernier volet de la série de quatre, Histoire d'Orsay ou comment la gare est devenue musée, proposé par Pierre Descargues. Première diffusion, le 8 décembre 1986 sur France Culture, dans le magazine Les Arts et les Gens.